Éponge, Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Port-au-Prince, 9h10 même, que dis-je, l'heure a changé. Un an et le pire redouté n'est pas arrivé. On dresse le bilan d'une année de Covid en Haïti alors qu'aux États-Unis, là, la catastrophe a bien eu lieu. Des femmes empêchées d'avorter au Chili, pourtant elles sont tombées enceintes à cause de pilules défectueuse, c'est notre dossier du jour. Dans une quinzaine de minutes, des nouvelles des Caraïbes avec le journal de la première. Serge Masson, on parle biodiversité en Guadeloupe.
Oui, on parlera de la Guadeloupe qui va se doter d'une agence régionale de la biodiversité.
À tout à l'heure, Serge, et bienvenue à tous. C'était il y a un an, tout juste, le maire de New York, Bill de Blasio, prend la parole.
Very, very saddened, all of us, to hear the death, the first New Yorker to die.
C'est un triste moment douloureux que nous redoutions, dit Bill de Blasio. La mort du premier habitant de New York du coronavirus. Un an plus tard, près de 535 000 personnes ont succombé. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
À l'occasion de ce premier et triste anniversaire, une cérémonie virtuelle est prévue ce lundi aux États-Unis. Romain, un an après, la presse américaine que vous avez lue revient sur les leçons à tirer de cette année.
Oui, c'est notamment le sujet de l'éditorial du Washington Post et le quotidien, avant même d'aborder les leçons que l'on peut retenir de cette année si particulière, annonce que cette crise est loin d'être finie. Il y a un an, nous annoncions la crise pandémique, explique le Washington Post, mais nous ne pensions pas qu'un an plus tard, ce coronavirus aurait fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde. Une crise qui a dépassé toutes les projections, non seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan économique et social, estime le quotidien.
Romain, quelles sont les leçons à retenir de ce que le quotidien, le Washington Post, bien sûr, rappelle la plus grave catastrophe de santé publique depuis un siècle.
Premier point, le leadership. Sans ce dernier, il est impossible de lutter efficacement contre une pandémie, comme l'a démontré la gestion de Donald Trump. Autre leçon, la pandémie a montré à quel point les menaces pour la santé publique sont vraiment mondiales. Ce qui se passe à Wuhan affecte Worcester, un variant à Leeds et bientôt à Los Angeles, détaille le quotidien. Il faut donc renforcer la surveillance des maladies au niveau national et mondial. Le Washington Post rappelle aussi le rôle central et l'héroïsme du personnel médical, dont beaucoup ont perdu la vie en sauvant d'autres. Enfin, le journal souligne l'importance d'une société qui encourage l'innovation, ce qui a permis d'obtenir si rapidement des vaccins, des leçons qu'il faut absolument retenir afin de se préparer pour la prochaine pandémie.
Le leadership, arme incontestable, arme contestée au Brésil, deuxième pays au monde le plus touché par le Covid. Le président Bolsonaro continue de minimiser des autorités qu'une partie des Brésiliens jugent responsables de la situation. Écoutez, cette habitante de Sao Paulo, état le plus grand et le plus riche du Brésil, qui vient de décréter un couvre-feu nocturne pour 15 jours.
Je trouve que cela aurait dû être fait il y a longtemps. Le grand problème ici au Brésil, c'est que toutes les mesures de restriction, de fermeture des commerces ne sont pas prises au sérieux. Et il n'y a pas de contrôle. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est le discours du gouvernement qui aggrave la situation.
Plus d'un millier de décès annoncés hier encore au Brésil. Et on l'apprend, Romain, le ministère de la Santé pourrait changer de tête.
Oui, selon Odia, le docteur Ludmila Ajar, cardiologue de profession, aurait rencontré le président Jair Bolsonaro ce dimanche après-midi. Elle serait donc pressentie pour remplacer le général Eduardo Pazuello, titulaire du poste depuis mai 2020 et dont la gestion de la crise pandémique fait l'objet de fortes critiques. Selon G1, la version gratuite de Globo, le général refuserait de quitter son poste. C'est en tout cas le message qu'a fait passer son bureau de presse ce dimanche. Mais toujours selon G1, le ministre brésilien de la Santé serait en fait malade, d'où ce départ pressenti, même si l'intérêt est nié. D'ailleurs, Eduardo Pazuello compte bien présider ce lundi une réunion pour finaliser l'achat des vaccins Pfizer et Johnson.
La pandémie, merci Romain, on va vous retrouver dans quelques minutes. La pandémie en Haïti, la catastrophe, vous disais-je, elle n'a pas eu lieu, elle était pourtant redoutée. Seulement 250 décès officiellement annoncés en Haïti. Amélie Baron, vous dressez le bilan de cette année avec l'épidémiologiste William Pape, qui a co-présidé la cellule médicale d'urgence créée par les autorités.
L'an dernier, l'angoisse était extrême pour le corps médical haïtien. Tout le monde savait qu'Haïti ne pourrait échapper à la pandémie et au regard des drames qui se déroulaient en Asie et en Europe, chacun savait que le système hospitalier du pays n'aurait pas les capacités de faire face à un afflux de malades. Quand les premiers cas ont été diagnostiqués dans le pays, les autorités ont pris de bonnes décisions, selon le docteur William Pape.
Le gouvernement a réagi très très vite en fermant les ports et aéroports du pays, en clairement la communication avec la République dominicaine, en fermant les écoles, en instituant un couvre-feu, en fermant les usines, ce qui a beaucoup affecté l'économie qui était déjà moribonde.
Dans une relative opacité quant à la passation de marché, du matériel a commencé à être acheminé en Haïti pour drastiquement augmenter les capacités hospitalières. On a vu quantité d'équipements de protection pour le personnel médical et des lits débarqués sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince. Le docteur Pape souligne aussi qu'Haïti a rapidement fait le choix de se doter d'extracteurs d'oxygène.
Je voudrais remercier la Fondation de France qui nous a fait don d'un extracteur d'oxygène, comme vous savez. L'oxygène, c'est la base du traitement, c'est essentiel. Et le gouvernement haïtien a acquis un total de 21 extracteurs d'oxygène, donc rendant le pays indépendant en production d'oxygène. Je peux dire que ça, c'est un peu les acquis qui ont été positifs avec l'arrivée de cette pandémie, c'est qu'on a pu renflouer essentiellement la capacité du ministère de la Santé de réagir à de nouvelles pandémies. Donc ça, c'est un acquis. Et ce sont des choses qui sont utiles pour le traitement de tous les jours. Tout le monde a besoin d'oxygène. Une femme qui va accoucher pour une opération, un bébé qui a des difficultés à respirer.
Cet acquis est précieux alors que plusieurs pays d'Amérique latine ont fait face à de graves pénuries en oxygène. Et finalement, à date, le Covid n'a pas causé d'hécatombe en Haïti. Le pays n'ayant absolument pas les moyens de mener de larges campagnes de dépistage, le docteur Pape sait que les statistiques concernant le nombre de cas sont fortement sous-évaluées. Mais la réalité est que si beaucoup d'habitants sont tombés malades, peu en sont morts.
On a affaire à un peuple qui est dur, qui doit travailler tous les jours. Autrement, il n'y a pas de nourriture qui rentre dans la famille. Donc, même avec la fièvre, les gens vont travailler. Et il y a très probablement, si j'estime, au moins 20 fois plus de cas que nous avons diagnostiqués. Maintenant, la chose qui est réelle, ce sont les décès. À date, on a diagnostiqué 12 536 cas et 250 décès. Les décès sont réels. Parce que de là où je vous parle, je suis en face d'un énorme bidonville. Nous savons tout ce qui se passe à l'intérieur du bidonville. S'il y avait des décès, on les saurait. Parce que on est séparés que par le boulevard Itrouma. Quand on avait les cas de choléra, bien les gens traversaient chez nous. On les amenait, c'est sur des brouettes, on les amenait chez nous. Donc c'est clair que la Covid ici n'a pas causé cette catastrophe attendue, fort heureusement.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Haïti davantage préoccupé par la situation politique et sécuritaire illustrée par cette opération policière vendredi dans le quartier Village de Dieu à Port-au-Prince aux mains des gangs. Une opération aux airs de fiasco qui s'est soldée par la mort de 4 agents des forces de l'ordre. Du matériel et des armes ont été perdus. Les Nations Unies se sont dit choquées. Une affaire après laquelle ce week-end une déferlante de messages a fleuri sur Twitter avec le hashtag Free Haïti. Plusieurs centaines de milliers de posts d'anonymes, de militants politiques, mais aussi des artistes du monde entier entraînant dans son sillage, comme l'écrit sur son site le journal Le Nouvelliste, une vague de désapprobation devant la situation que vit Haïti. À Port-au-Prince, il est 9h18, la même heure. À Washington, nous revoilà aux États-Unis. Romain Lemoresquier, vous êtes toujours là, le pays de Joe Biden, où l'on parle aussi de cet afflux de migrants mineurs à la frontière avec le Mexique. Ils sont de plus en plus nombreux, si bien que le président américain a demandé l'aide de la FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, pour faciliter la prise en charge de ces enfants.
Oui, il faut dire que les critiques étaient de plus en plus nombreuses quant à la gestion de ce dossier, détaille le New York Times. La FEMA, qui fournit normalement une aide financière lors des catastrophes naturelles, aidera à trouver un abri et fournira de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux de base à des milliers de jeunes migrants qui sont actuellement hébergés dans des centres de détention. Ce n'est malheureusement pas la première fois que cette agence a été appelée à l'aide, rappelle le quotidien. Donald Trump l'avait déjà fait. Actuellement, il y a des milliers d'enfants et d'adolescents dans des centres, une situation qui s'aggrave de jour en jour, rappelle le quotidien.
RFI, la radio del mundo.
Tout à fait. Autre chose à présent, Romain, revenons sur la situation en Bolivie. Samedi, l'ancienne présidente par intérim, Jeanine Agnès, a été arrêtée. Elle est accusée de coup d'État contre son prédécesseur, Evo Morales.
Oui, une arrestation dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet pour sédition, terrorisme et conspiration, détaille La Razón. Une enquête, précise Los Tiempos, qui fait suite à une plainte déposée en décembre dernier par une ancienne députée du Mouvement vers le Socialisme, le parti d'Evo Morales, et de l'actuel président Luis Arce. Jeanine Agnès a été placée officiellement en détention provisoire pour les 4 prochains mois, ce dimanche, à l'issue d'une audition de 8 heures. 2 anciens ministres de son gouvernement sont également en détention provisoire, explique La Razón. Une information reprise par toute la presse nationale, qui a choisi de mettre en une photo de l'ancienne présidente masquée et derrière des barreaux.
Romain Lemaresquier, merci. Et la une d'El Mercurio en Équateur. Le second tour sans Yaku, en confirmation que le deuxième round de la présidentielle le 11 avril en Équateur opposera le coréiste Andrés Arauz au conservateur libéral Guillermo Lasso, tel en a décidé et tranché le tribunal électoral. On traverse les frontières un peu plus au sud et nous voilà au Chili, pour notre dossier du jour, intéressons-nous à cette affaire de pilules défectueuses qui relance le débat sur le droit à l'avortement. Au moins 140 femmes pensent être tombées enceintes à cause de leurs pilules contraceptives distribuées notamment dans des centres de santé publique de proximité. Pilules retirées depuis du marché à cause de défauts de fabrication. Le problème, Justine Fontaine, c'est que les femmes concernées aujourd'hui n'ont pas le droit d'avorter d'après la loi.
Le cinquième enfant de Cynthia González vient tout juste d'avoir un mois. Dans le petit salon de sa maison, dans un quartier pauvre de la banlieue de Santiago, Cynthia, 38 ans, lui donne le sein pendant que ses autres enfants jouent à l'étage. Quand elle est tombée enceinte, elle venait de se séparer de son mari.
Je n'ai pas su que j'étais enceinte jusqu'au quatrième mois de grossesse parce que je continuais à avoir mes règles au début. J'avais eu un problème avec mon stérilet, la contraception que j'utilisais, et la sage-femme m'a conseillé de changer et de prendre les pilules annulettes qui sont distribuées dans le centre de santé publique du quartier. Je les prenais depuis un an et demi. Quand on prend la pilule, on pense qu'elle fait effet, et si je la prenais, c'était pour ne pas avoir d'autres enfants.
Pourtant, entre août et octobre dernier, quelques semaines après le début de sa grossesse, des lots de 4 marques différentes de pilules contraceptives ont été retirés de la circulation à cause de problèmes de fabrication. Parmi eux, plus de 270 000 plaquettes de la pilule que prenait Cynthia, fabriquée par le groupe pharmaceutique allemand Grünenthal. Javiera Canales est la directrice exécutive de la corporation Miles, une association féministe.
Les plaquettes contiennent 28 comprimés et les 7 pilules placebo étaient pour certaines placées par erreur à l'emplacement des comprimés actifs et inversement. Dans d'autres cas, il manquait une partie des pilules sur une plaquette ou alors certaines pilules étaient en petits morceaux.
L'association s'apprête à déposer une plainte collective devant les tribunaux chiliens pour que les plus de 140 femmes concernées puissent obtenir réparation. Dans certains cas, l'ONG a aussi présenté des recours pour qu'elles aient accès à l'avortement.
Parmi les femmes que nous accompagnons, certaines prenaient des antidépresseurs. Elles ont dû arrêter leur traitement à cause de la grossesse et se trouvent parfois avec des idées suicidaires. Nous avons donc demandé avec elles l'avortement au motif du risque pour la vie de la mère.
Pour l'instant, aucun recours n'a abouti car la loi chilienne est très stricte. Il n'est possible d'avorter légalement qu'en cas de viol, si le fœtus n'est pas viable et enfin, si la vie de la personne enceinte est menacée par la grossesse. Alors, des dizaines de milliers d'avortements clandestins continuent d'avoir lieu chaque année. Depuis 2011, au moins 126 femmes ont été condamnées à de la prison avec sursis pour avoir avorté. Camila Rojas est députée de l'opposition de gauche. Avec un groupe de parlementaires féministes, elle souhaite que la loi change.
Nous avons présenté une proposition de loi dans les limites que nous impose la Constitution actuelle pour dépénaliser l'avortement jusqu'à 14 semaines, quel que soit le motif invoqué.
Le texte a peu de chances d'être adopté cette année car le gouvernement de droite y est opposé. Mais les féministes chiliennes espèrent que le sujet sera débattu lors de la future Assemblée constituante, élue le 11 avril. Une assemblée paritaire qui doit rédiger le texte qui remplacera la Constitution actuelle, héritée de la dictature de Pinochet. En attendant, les femmes concernées par le scandale des pilules défectueuses veulent être indemnisées par l'État ou les laboratoires, comme Catherine Martinez, 19 ans. Elle vit dans un quartier populaire du Grand Santiago et elle pensait commencer des études cette année.
J'ai renoncé finalement car j'aurais dû payer l'inscription, puis les mensualités et je n'ai pas de quoi payer tout ça. Je n'ai plus de travail et c'est compliqué car mon père a perdu son emploi. Et puis, vu que je suis enceinte, aucune entreprise ne voudrait m'embaucher.
Fin février, les laboratoires qui fabriquent les pilules annulettes ont reçu une amende de 90 000 $ environ de la part de l'autorité chilienne du médicament. Dans un communiqué, ils se défendent en expliquant que même dans des conditions idéales, je cite, 3 femmes sur 1000 peuvent tomber enceintes alors qu'elles prennent des pilules contraceptives. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
On se redonne un peu de baume au cœur. Après ça, les femmes dominent le monde, en tout cas celui de la musique. Retour sur le palmarès des Grammy Awards. Hier soir à Los Angeles, Loïc Piala, les artistes féminines ont tout raflé.
Elle a refusé de se produire sur scène et une fois encore, elle n'a gagné aucun des prix majeurs. Beyoncé restera pourtant l'une des reines de ces 63e Grammy Awards grâce à son album Black is King, une célébration de la communauté noire. Queen Bee a enrichi sa collection, la voilà avec 28 Grammy, un record pour une chanteuse ou un chanteur.
En tant qu'artiste, je crois que c'est mon travail, notre travail, de refléter notre temps. Et ces temps sont difficiles. Alors je voulais rendre hommage, encourager, célébrer toutes les reines et tous les rois noirs qui continuent de m'inspirer et d'inspirer le monde.
Dans une cérémonie marquée par le triomphe des femmes de la rappeuse Megan Stallion, révélation de l'année, au prodige Billie Eilish, lauréat du meilleur disque de l'année, en passant par la star de la country Taylor Swift, victorieuse pour la 3e fois du meilleur album, Burna Boy s'est fait remarquer. Le phénomène nigérian remporte le Grammy du meilleur album de musique du monde avec Twice as Tall.
C'est une grande victoire pour ma génération d'Africains à travers le monde. Et c'est une leçon, qu'importe vos objectifs, vous pouvez les atteindre parce que vous êtes des rois.
Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est un homme que l'on retrouve. Bonjour Serge Massot.
Bonjour.
Alors la Guadeloupe se dote d'une agence régionale de la biodiversité.
Oui, la petite île de Guadeloupe qui rassemble à elle seule près de 6% de la biodiversité nationale. Et c'est une loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité qui permet donc aux régions de créer des agences régionales de la biodiversité. Objectif de cette agence, préserver et restaurer la biodiversité exceptionnelle de la Guadeloupe. Chantal Horn, de Guadeloupe la Première.
La biodiversité de la Guadeloupe, c'est 3000 espèces de flore connues, 3600 espèces de faune connues, dont 384 endémiques. La Guadeloupe, c'est aussi 78% de la flore des Petites Antilles et 6% de la biodiversité nationale sur 0,2% du territoire national. La structure bénéficiera de l'appui d'un conseil d'orientation et d'un conseil scientifique. Cette agence régionale des îles de Guadeloupe deviendra opérationnelle au premier semestre 2021, avec une montée en puissance progressive tant au niveau de ses moyens que de la réalisation de son plan d'action et de ses missions et axes d'intervention.
En Martinique, les militants anti-chlordécone maintiennent la pression. Une nouvelle mobilisation est annoncée le 10 avril à Fort-de-France pour dire non à un possible non-lieu dans le dossier judiciaire du chlordécone, ce pesticide longtemps utilisé aux Antilles pour la culture de la banane. En Guyane, aucun décès lié au Covid-19 depuis une semaine. Le nombre d'hospitalisations est stable, le taux d'incidence est en baisse. Et depuis vendredi, sapeurs-pompiers et marins-pompiers sont autorisés à effectuer les injections de vaccins. Une bonne nouvelle qui permettra d'accélérer la vaccination, selon Clara Debord, la directrice de l'Agence régionale de santé en Guyane.
C'est une excellente nouvelle. Plus on a de professionnels qui peuvent vacciner, plus ça va nous faciliter la montée en charge de la vaccination. C'est aussi la preuve que la vaccination est sans risque, puisque cet élargissement est fait de façon progressive. On donne de plus en plus de droits à des professionnels qui ne sont pas des spécialistes au départ de la vaccination. Donc je suis vraiment très très contente, parce qu'en plus les pompiers sont des gens qui connaissent très bien la population, qui sont bien implantés partout. Et vraiment, ça va être une très très bonne chose que nos amis les pompiers puissent venir nous aider. Alors, ils n'ont pas forcément de besoins immédiats, mais lorsqu'on va travailler sur l'augmentation de la campagne, parce que les doses supplémentaires vont arriver, on pourra très clairement intégrer des pompiers en plus des infirmiers libéraux, des infirmiers hospitaliers, des médecins dans les équipes de vaccination.
C'était Clara Debord, la directrice de l'Agence régionale de santé en Guyane, des propos recueillis par Mélodie Nourry. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première. Le journal d'Haïti et des Amériques, aujourd'hui réalisé par Hélène Avril. On se retrouve demain avec, chers auditeurs haïtiens, vous l'avez remarqué, ce nouvel horaire pour vous. Le temps que l'on vous rejoigne dans le changement d'heure cette semaine. Donc, rendez-vous à 9h10, heure de Port-au-Prince, c'est la même heure. Pour tous ceux qui nous écoutent des États-Unis de la côte Est. Très bonne journée à tous.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Autour de la question. Simon Rosé.